quand des armes explosives sont utilisées dans des zones urbaines, 90% des victimes sont des civils. Quand 9 victimes sur 10 sont des civils, on ne peut plus parler de dommages collatéraux. C'est contraire au droit international, il faut faire quelque chose.
Handicap International et d'autres ONG militent pour l'adoption d'une déclaration internationale encadrant l'usage des armes explosives en zone peuplée. Une centaine de pays participent actuellement aux discussions.
Nicolas Falaise, le Covid-19 en France, ce sont près de 16 000 nouvelles infections hier, 56 morts en plus en 24 heures et une levée de boucliers à Marseille contre la fermeture des bars et des restaurants souhaitée par le gouvernement.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
la début des XXe siècle. Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs des impromptus, bonjour. Acidulé, fade, amer, suave, capiteux, piquant, salé, amer, âcre, enivrant, mais encore, fragrance, effluve, arôme, senteur, exhalaison. Cette semaine et en ce début de printemps, nous nous proposons de réjouir vos sens par une série de textes d'auteurs différents sur les saveurs et les senteurs.
Philippe Delerme, auteur entre autres de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, se décrit lui-même comme, je cite, « d'un côté, le guetteur d'enfance et de mémoire, de l'autre, le buveur de petits instants découpés dans le présent ». Directeur de la collection « Le goût des mots » pour les éditions Point Seuil, il sait décrire mieux que personne ces instants familiers, ces tout petits riens de notre vie quotidienne qui sont logés à notre insu dans un coin de notre mémoire ou de notre enfance. Le paquet de gâteaux du dimanche matin. Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un Paris-Brest, deux tartes aux fraises, un millefeuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui en supplément pour les gourmands? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteau à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton. Le millefeuille ne tient pas. C'est important ce carton plat, carré, aux bords arrondis, relevé. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile au destin menacé. Ce sera tout. Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous, mais dès la porte du magasin franchie, on le saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont apportés comme on tient un pendule. Sourcier des rites minuscules, on avance sans arrogance ni fausse modestie. Cette espèce de componction, de sérieux de roi mage, n'est-ce pas ridicule ? Mais non. Si les trottoirs dominicaux ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose. Autant que ça et là, quelques poireaux dépassant d'un cabas. Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol, celle qu'il faut pour saluer l'effervescence d'après-messe et les bouffées de PMU, de café, de tabac. Petit dimanche de famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui, le temps balance en ostensoir au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tache en haut de la religieuse au café.
Eva Lacoste est journaliste et traite habituellement de sujets de société. Elle a également produit un ouvrage, Les recettes d'Eva, qu'elle présente comme un voyage des saveurs et des couleurs. Aujourd'hui, la poêlée aux petits légumes. En ce joli mois de mai, la nature donne le meilleur d'elle-même, ses fruits juteux et ses légumes croquants. Coiffée d'un joli petit toupet de fane verte, la carotte primeur fait son apparition. Plus petite, plus délicate, cette beauté tient son nom du grec caroton et du latin carota. Originaire d'Asie mineure, ce légume familier aux précieuses qualités nutritionnelles était connu depuis l'Antiquité pour ses vertus médicinales. Les Grecs et les Romains cependant, n'appréciait guère la carotte blanchâtre au cœur fibreux. Et elle n'était certainement pas au menu du célèbre banquet de Trimalchion. Dans son histoire naturelle, Pline appelle la carotte Pastinaca Gallica, nourriture des Gaulois. C'est à partir de 1600, en Hollande et en particulier au XIXe siècle, qu'elle prend des formes plus orangées, pour devenir le tendre légume que nous connaissons. Jetez donc votre dévolu sans plus tarder sur une belle livre de jeunes carottes que vous laverez et frotterez sans les éplucher et couperez selon grosseur. En accompagnement, car la belle est d'une grande civilité, une ou deux bonnottes de Noirmoutier ou Charlotte de l'île de Ré, selon grosseur. Le tout à cuire dans une casserole d'eau salée. Lorsque les carottes et les pommes de terre sont cuites, mais encore fermes, les secondes détaillées en dés, les mettre dans une poêle où vous aurez mis à cuire dans de l'huile d'olive, oignons doux de printemps, ainsi que des quartiers de courgettes, actuellement au mieux de leur forme et vrai bouclier pour le système cardiovasculaire avec une quantité record d'oligo-éléments. Après cuisson à feu doux, pendant 5 minutes, ajoutez de la crème liquide, de la ciboulette et du persil. Succulent, idéal pour accompagner des œufs brouillés et encore meilleur arrosé d'un grand cru de la rive droite de la Loire, dont se régalait Rabelais déjà présent en l'an 1000 à l'abbaye de Bourgueil.
Thank you. La blanquette de l'ancienne que vous allez découvrir est une nouvelle extraite de Histoire de bouche de Noël Châtelet, livre publié en 1986 chez Mercure de France. L'auteur s'est inspiré de faits réels qui montrent combien la nourriture est présente dans la tragédie, la comédie ou la simplicité de nos existences. Noël Châtelet a obtenu le prix Goncourt de la nouvelle en 1987 pour ce recueil. Écoutez. Au terme de 81 ans de fréquentation avec elle-même, Raymonde avait appris à reconnaître les signes qui distinguaient les bons des mauvais jours. Tendue, dans une immobilité parfaite, elle se réveilla ce matin-là, le cœur bizarrement serré, et il lui fallut quelques minutes de plus qu'à l'ordinaire pour adapter ses yeux à la lumière pourtant tamisée de l'été. Mauvais signe. Elle tourna lentement la tête vers la fenêtre et regarda l'ombre des persiennes jouer avec les rideaux sur lesquels elle avait jadis brodé quelques scènes champêtres et que le vent semblait animer pour elle. Cela ne la fit pas sourire. Mauvais signe. Elle bougea les jambes. Sa hanche gauche demeurait engourdie. Longtemps, elle avait cru que la certitude qu'elle était bien vivante tenait au fait qu'aucune douleur du corps ne pouvait résister au sommeil réparateur de la nuit. « Je suis vivante parce que je n'ai mal nulle part. » Désormais, elle savait que ces mêmes douleurs, cette infinité de misère due à l'âge, demeurait l'unique preuve qu'elle continuait à vivre. « Je suis vivante parce que j'ai mal quelque part. » Ce jour-là, sa hanche gauche lui rappela donc qu'elle était en vie. Elle se leva, accomplissant au ralenti un à un les gestes d'entrée en scène, mais tellement à contre-cœur que l'anxiété la paralysa bientôt et qu'elle dut s'asseoir sur le bord du lit. C'est ainsi qu'elle comprit. On était samedi, le jour de la blanquette d'agneau. Une blanquette aujourd'hui, elle aurait préféré un sauté. Curieux, mais pour la première fois depuis des années, voilà qu'elle l'inquiétait, cette blanquette. Elle ne la voyait pas. Plus exactement, elle ne se voyait pas, elle, Raymonde, jetant dans le faitou les morceaux de viande minutieusement préparés. Cette idée lui donna même une sorte de nausée. Mauvais signe. Quand elle eut repris une troisième tasse de thé et qu'elle pénétra enfin dans la cuisine, on peut dire que Raymonde arborait cet air décidé et curieusement indifférent qu'ont certains condamnés avant l'ultime moment. Elle mit un tablier propre. Et, sûre d'elle-même tout à coup, se laissa aller à la liturgie orchestrale qui préside à la confection d'une blanquette à l'ancienne. Impossible de savoir où l'erreur s'était glissée. Au moment d'incorporer la farine, dans le choix des carottes et des poireaux pour parfumer le bouillon, quand le jaune d'œuf était venu éclaircir la crème, quoi qu'il en soit, le silence de la tablée familiale fut éloquent. Raté. La blanquette d'agneau était ratée. À peine put-elle soutenir le regard légèrement fuyant de son petit-fils. Sa fille retira le plat de la table sans proposer qu'on serait servi. Et Raymonde nota le rien d'agacement que cet incident lui causait à sa façon bien singulière de repiquer l'épingle glissée de son chignon. Quant à son gendre, il s'était plongé depuis longtemps dans les mots croisés du journal. Le fromage, les fruits, la crème renversée firent ce qu'ils purent pour atténuer l'odeur persistante et accusatrice de la blanquette, qui semblait vouloir s'accrocher aux moindres objets de la salle à manger, se glissant furtivement dans la pendule, imprégnant les doubles rideaux, s'engouffrant dans la coupe en baccarat, remplie de pétales de roses séchées, sous les tapis de laine et jusqu'au globe du lampadaire. Un terrible effluve d'échecs planait là. Enfin, on sortit de table. Raymonde aida à la vaisselle. Dans la cuisine où montait l'arôme du café, sa fille s'activait en fredonnant. Elle n'était pas femme à garder rancune. Et la vieille dame fut à maintes reprises cajolée et même tendrement moquée pour ce petit ratage sans importance. D'ailleurs, jamais l'entremets n'avait été aussi réussi. Un délice! Progressivement, Raymonde sentait son corps se glacer. Chaque parole de consolation l'enfonçait inflexiblement dans l'irréparable. Maintenant, elle était dans sa chambre, assise devant son lit, les mains croisées sur les genoux, le buste raide, le visage impassible, le regard vide. Elle réfléchissait. Le bruit familier des soubresauts d'une mouche incrédule remplissait l'air d'un bourdonnement fou qui contrastait avec sa propre sérénité. Du bout de l'appartement, lui parvenait la voix exaltée d'un reporter sportif commentant le match de Colombes, couverte de temps en temps par les sifflements féroces de son petit-fils, bombardant avec une sauvagerie qui l'étonnait toujours ses soldats de plomb. Par intervalle, le ronron de la machine à coudre venait tempérer cette surenchère de bruit masculin, douce et rassurante mélodie qui avait bercé toute son existence d'épouse, de mère, d'aïeule. Elle pouvait encore déceler, dans les plis de son chemisier, l'odeur de la blanquette fatale. Elle chercha dans sa tête impérieuse de bonnes raisons pour continuer, en dépit de cette humiliation. Honnêtement, elle n'en trouva pas. Alors, elle se mit debout. Elle lissa sa jupe de ses mains fanées et, poussant sa chaise près de la fenêtre ouverte où pointaient les plus hautes branches des grands marronniers du boulevard Masséna, Raymonde enjamba la barre d'appui de la jambe droite, sa jambe de jeune fille.
Comment évoquer des odeurs sans parler du roman « Le parfum » de l'écrivain et scénariste allemand Patrick Süskind. Dans ce roman plein d'humour, paru en 1985, tout tourne, vous vous en doutez, autour de l'importance du parfum dans nos vies, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Mais écoutons plutôt le début fulgurant de l'ouvrage « Quand Jean-Baptiste Grenouille s'apprête à voir le jour sous un étal de poisson » au XVIIIe siècle, dans la capitale du royaume, Paris. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat. Les cuisines, le chou pourri et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée. Les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moides, le rémugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leur bain corrosif et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Leurs bouches puaient les dents gâtées. Leurs estomacs puaient le jus d'oignon. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient. Cela puait sur tous les ponts et tous les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan. La noblesse puait du haut jusqu'en bas, et le roi lui-même puait. Il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite. Aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin qui ne fût accompagnée de puanteur. C'est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la capitale de la France. Au sein de la capitale, il était un endroit où la puanteur régnait de façon particulièrement infernale. Entre la rue au Fer et la rue de la Ferronnerie, c'était le cimetière des innocents. Pendant 800 ans, on avait apporté là les morts de l'Hôtel-Dieu et des paroisses circonvoisines. Pendant 800 ans, on y avait jour après jour charroyé les cadavres par douzaines, on les y avait déversés dans de longues fosses. Pendant 800 ans, on avait empli par couches successives charniers et ossuaires. Ce n'est que plus tard, à la veille de la Révolution, quand certaines de ces fosses communes se furent dangereusement effondrées et que la puanteur de ce cimetière débordant déclencha chez les riverains non plus de simples protestations, mais de véritables émeutes, qu'on finit par le fermer et par l'éventrer, et qu'on pelleta des millions d'ossements et de crânes en direction des catacombes de Montmartre et qu'on édifia sur les lieux une place de marché. Or, c'est là, à l'endroit le plus puant de tout le royaume, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille. C'était l'une des journées les plus chaudes de l'année. La chaleur pesait comme du plomb sur le cimetière, projetant dans les rues avoisinantes son haleine pestilentielle, où se mêlait l'odeur des melons pourris et de la corne brûlée. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue au fer et cueillait les gardons qu'elle venait de vider. Les poissons, prétendument pêchés le matin même dans la Seine, puaient déjà tellement que leur odeur couvrait l'odeur de cadavres. Mais la mère de Grenouille ne sentait pas plus les poissons que les cadavres, car son nez était extrêmement endurci contre les odeurs. Et du reste, elle avait mal dans tout le milieu du corps, et la douleur tuait toute sensibilité aux sensations extérieures. Elle n'avait qu'une envie, c'était que cette douleur cessât. Elle voulait s'acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C'était son cinquième. Tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal, et à tous les coups, ça avait été un enfant mort-né, ou à peu près. Car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poissons qui gisaient sur le sol, et ne vivait guère davantage. Et le soir venu, tout cela était balayé pêle-mêle et partait dans les carrioles vers le cimetière ou vers le fleuve. C'est ce qui allait se passer une fois de plus. Et la mère de Grenouille, qui était encore une jeune femme, 25 ans tout juste, qui était encore tout à fait jolie et qui avait encore presque toutes ses dents et encore des cheveux sur la tête, et qui, à part la goutte, la syphilis et un peu de phtisie, n'avait aucune maladie grave, qui espérait vivre encore longtemps, peut-être 5 ou 10 ans, et peut-être même se marier un jour et avoir de vrais enfants en étant la respectable épouse d'un artisan qui aurait perdu sa femme, par exemple. La mère de Grenouille souhaitait que tout cela finisse. Et quand les douleurs se précisèrent, elle s'accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ce qui venait d'arriver là.
Jean-Bernard Puy, né le 2 janvier 1946 à Paris, est un écrivain français de romans noirs, directeur de collection. C'est lui l'inventeur du héros récurrent Le Poulpe. Adepte de l'oulipo, il pratique assidûment l'écriture à contrainte. Il participe notamment à l'émission Les Papous dans la tête sur France Culture. La nouvelle, Histoire de truffe, est parue dans la revue Autrement, en septembre 1987. Les petits chefs de meute commencent sérieusement à me hérisser le poil. Je sais ce que j'aboie. J'ai 5 ans, je suis en pleine force de l'âge, j'ai la truffe sèche, le garrot lustré et le coussinet élastique. Je n'ai pas besoin de muselière n'ayant de dents contre personne. j'obéis. Telle est ma vie bâtarde, j'obéis. Et je travaille inlassablement, je bosse. Mon nez entrant dans le monde, le fendant, s'enfonçant dedans comme un coin renifleur dans une masse informe d'odeurs solides. Mais, ouah, ça suffit, j'ai décidé d'en finir aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent que sentir ne peut être un travail. Je sens, donc je suis. Je ne fais pas. Mais crotte, mon grand nez poilu n'est pas un outil ou un appareil de mesure. C'est une partie de moi qui m'empêche de devenir fou. C'est une partie de moi qui me fait comprendre où je suis, qui je suis et ce que je fous ici. Et je ne fais pas le cabot en grognant ça. Mes parents doivent toujours vivre là où je suis née, dans la montagne, courant après le fumet anarchiste des mouchetons, égarés, traversant d'abrutissants champs de lavande, se roulant dans l'herbe humide et fade, tentant vainement d'éviter l'épice insupportable laissée partout par la dizaine de chats de la baraque. Mais ils sont heureux, eux, car ils vivent avec le maître, celui dont le parfum a tout de suite remplacé l'odeur de poils mouillés de lait de la mer. Celui qui, me perdant volontairement dans ce monde rempli d'odeurs idiotes et dangereuses, me ramenait le soir, harassé, au bercail. Ou couché près de la cuisinière, sentant cette masse confuse de viande et de soupe, j'ai pu le définir comme monsieur, mon premier grand chef de meute, avec respect, avec amour, avec crainte. Et puis, le maître s'est mis dans la tête de me fourrer le museau sur de drôles de champignons noirs, comme de petites patates à l'odeur grasse et écœurante d'excréments. Il me conduisait en laissé dans la garrigue et me forçait à dénicher au pied des chênes verts, sous la terre, ces boules terreuses qu'il mettait hilar dans un grand panier. Et j'avais droit alors à des caresses fortes et dures. Pourtant, il y avait mille choses sur la terre qui sentaient meilleures que ça. Il n'avait pas l'air de comprendre que je sentais mieux les idées que les choses. Un sucre, ça ne sent pas le sucre, mais la bonté. La sueur sent plus la peur que la pisse. L'ironie et l'hypocrisie plus fort que la pâtée immonde qu'il me servait le soir. Mais j'étais heureux quand il prononçait mon nom. Un jour, tout a changé. J'avais un an de plus. Des frères puants étaient arrivés. Le maître m'a amené dans la glace, plus haut, dans la montagne. Pendant 6 mois, il est resté avec moi à faire des trous dans la neige, à se cacher dedans. Après, il fallait que je le retrouve. Un jeu compliqué. Je me suis souvent glacé les pattes et mes reins gelaient. Et puis, il m'a fait jouer avec d'autres partenaires, tous habillés de bleu et qui se perdaient eux aussi sous la neige et que je retrouvais à toute vitesse pour lui faire plaisir. J'étais content, car le maître me regardait avec fierté. Une odeur légèrement musquée, la fierté. Et puis, il a disparu. Plusieurs fois, on m'a traîné dans de grands tas de neige où beaucoup de petits maîtres criaient affolés. Le jeu continuait. Peut-être le maître était-il caché quelque part ? C'était dur. Il y avait plein d'êtres enfouis sous la neige qui sentaient fort la peur et l'angoisse, ou bien qui étaient en train de perdre leur odeur. Quand je les avais trouvés, je repartais chercher mon maître, caché quelque part. Le jeu fut très difficile et très long, et j'ai perdu, car un jour j'ai senti le maître dans la pièce d'à côté. Il avait abandonné le jeu et venait me chercher. J'étais heureux, même si je ne comprenais plus rien. Il m'a mené à la ville, odeur d'essence et d'autres moi-même. Là, il m'a confié à d'autres petits maîtres, encore habillés de bleu, et le jeu a continué. Si je repérais dans des paquets, des valises, des sacs, l'odeur âcre d'une sorte de poudre, j'avais droit à de rudes caresses, celles qu'il me donne en criant des mots d'enfant, et surtout, je gagnais une journée de repos avec mon maître. On se promenait dans des sortes de hangars dégueulasses, pleins d'huile et de papier, avec un bruit terrible, des sifflements venus du ciel, tout le temps, tout le temps. Je n'avais plus tellement envie de courir, à perdre le souffle comme avant. Mais j'étais content. Le maître me regardait encore souvent dans les yeux. Et pourtant, j'en sentais des odeurs attachées que j'étais dans ces ombres qui défilaient, leurs valises à la main, des odeurs de vieux pieds, de chaussettes, de cigarettes, des odeurs de fatigue, de gâteaux inconnus, des odeurs de bêtes, de montagnes, de poissons, des trucs pas très intéressants, mais en tout cas bien plus agréables que l'odeur un peu acide de cette farine qu'il me fallait trouver pour que le jeu continue. C'était facile. Elle accompagnait presque toujours celle plus tonitruante de la peur et de l'angoisse. Je trouvais toujours, mais mon maître ne reparaissait pas. Peut-être que je n'en trouvais pas assez. Alors j'ai continué, la mort dans l'âme, le nez en avant, la truffe aux abois, chauffée à blanc par tous ces reniflements successifs. On était content de moi. On m'a pris en photo. Ils m'ont aveuglé plusieurs fois, fier de me tenir en laisse la main sur mon poitrail. Les cons. Et le maître chéri est revenu un jour, avec un autre comme moi, que j'ai mordu à la gorge. J'étais battue, puis caressée. Je ne comprenais plus rien. Il me fallait chercher maintenant avec lui, qui n'était même pas un frère, et plus vite que lui, si je voulais repartir avec mon maître. Chercher une autre odeur, celle de petits paquets de pâtes brunes ou des pâtonnets en matière grisâtre que personne n'aimait, car je sentais la peur quand j'en trouvais. Et on m'emmenait loin d'eux à toute vitesse. Aujourd'hui, ça fait trop longtemps que le maître n'est pas revenu. Je ne suis pas crétin au point de me rendre compte qu'il a choisi l'autre. C'est fini. Je ne reviendrai plus dans la montagne où mes parents courent encore après la trace un peu forte des lièvres. Je suis aujourd'hui trop loin du soleil et du vent. Je suis sous la terre dans une sorte de train tellement puant qu'il m'est impossible de savoir ce que ça sent. Et je dois jouer à ce jeu qui ne me plaît plus. À ce jeu où l'on me tient, presque étranglé à une laisse de cuir, avec des petits maîtres suintant la peur et beuglant pour la tromper. Je ne comprends plus pourquoi je devrais trouver ces paquets dont ils ne se servent même pas. Ces paquets qu'ils ne sont même pas contents de trouver. Il faudrait qu'ils sachent qu'on ne sent pas, mais qu'on est ce que l'on sent. On est le champignon, le maître sous la neige, le lapin dans le sous-bois. Je ne parviens pas à être cette poudre blanche ou cette pâte grisâtre. Mais comment leur dire? D'ailleurs, sous la banquette, il y en a un paquet, un gros. Je ne fais rien. Je passe à côté. Je m'en fous. J'en ai plein le pédigré. Je ne peux plus les sentir. On me crie dans les oreilles et on m'emmène. Un grand éclair, un grand bruit et une grande chaleur me passent sur l'échine.
Vous avez peut-être entendu parler de Jean-Paul Kaufmann, ce grand reporter à l'événement du jeudi, enlevé par le djihad islamique au Liban en mai 1985 et retenu en otage 3 ans durant. Dans ce témoignage, La Maison du Retour, paru en 2007, Jean-Paul Kaufmann retrace son installation en France, son retour à la vie normale. Il choisit de s'établir dans cette forêt de pins que sont les Landes et décide d'y restaurer une maison, les Tilleuls, qui sera pour lui le lieu d'une renaissance. Aux Tilleuls, j'ai retrouvé ma mémoire sensitive. Tout prisonnier est un prisonnier de la perception. Il est étroitement enfermé dans un univers sensoriel qui le tourmente sans cesse et avive le sentiment de sa condition. Impossible de s'extraire de la tache de moisissure sur le mur. Elle devient un motif si obsédant que cet assujettissement ne laisse aucun répit à l'esprit. Il est esclave du moindre son qu'il lui faut identifier à tout prix. Les miasmes si caractéristiques de la prison s'imposent tyranniquement à son odorat et l'isolent un peu plus. L'olfactif, logé dans la partie la plus archaïque du cerveau, est hélas le sens qui fonctionne le mieux dans une telle situation. Quant au toucher, il est mortifié par la matière nue, la brutalité du béton et du métal. Ses sens, trop impressionnables, réveillent dans la douleur les émotions du passé. Ils favorisent surtout une pénétration plus lancinante du présent. Être enfermé, c'est déverrouiller les cinq sens. Ils sont libres, ils s'emballent et se dérèglent. Constamment en alerte, le prisonnier ne sait plus où il est. Dans ma campagne, il m'a fallu accomplir le chemin inverse. Apprendre à recueillir dans la sérénité les sensations en provenance du monde extérieur. En fait, je n'ai eu besoin ni d'apprendre ni de m'imposer des règles de conduite. Je réalise aujourd'hui combien cette improvisation me fut bénéfique. Cette totale absence de méthode porte peut-être un nom, l'instinct vital, ce principe opportuniste et navigateur qui empêche le naufrage. Dans la maison qu'il a restaurée, Jean-Paul Kaufmann, invité par le voisin, voisin avec un V majuscule, partage un repas. La conversation tourne autour des Landes, terre colonisée par le pouvoir central situé à Paris. La conversation menace d'être chaude. Quand arrive un vin merveilleux, le Palmer 61, dont vous apprécierez peut-être en imagination la saveur. Le 61 de Palmer fait diversion. Je me souviens de l'été 1961, déclare le voisin. Il se lève, ajuste sa pochette et porte solennellement son verre à la hauteur du front. Pas une goutte d'eau. Le thermomètre avait franchi les 40 degrés. Je n'ai pas oublié le vent brûlant et salé de la mer. Il paraît qu'il a grillé la vigne. C'est un millésime qui, curieusement, est lié dans ma mémoire au mur de Berlin. Vous savez qu'il a été élevé en plein mois d'août 1961. Cette construction a accentué pour moi l'impression de suffocation. Un aussi beau millésime lié à l'arbitraire d'un tel acte. Mais qui s'en souvient ? Les grands millésimes parviennent à abolir la virulence de certains événements. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais si le vin habite un éternel présent, en tout cas celui-ci me paraît invulnérable. La robe est encore sombre et intense. Les parfums de la jeunesse, souvent trop démonstratifs dans leur évidence, ont disparu au profit d'un bouquet profond, évoquant le cèdre, l'épice. Une sensation ténébreuse, irrévélable. Je songe alors à cette réflexion entendue un jour dans la bouche d'un vigneron. Le parfum, ça vous saute au nez, tandis que le bouquet, il faut aller le chercher. C'est un preneur presque illicite d'atteindre la vérité cachée d'un tel vin. Il réussit à jouer sur deux notions antinomiques, la délicatesse et la puissance. D'ordinaire, on a ou l'un ou l'autre, jamais les deux à la fois, sauf dans des cas exceptionnels comme celui-ci.
Chers auditeurs, c'était là notre première émission sur les senteurs et les saveurs. Aujourd'hui, les textes étaient lus par Annick, Monique, Annie, Christine et Anne, et la technique était assurée par Vincent et Claude Michel. Les pauses musicales sont tirées du disque La Loire de Ballade en Ballade, musique composée et interprétée par Pascal Desportes. Nous souhaitons que cette émission vous laisse sur un goût de reviens-y, puisque nous vous proposons de nous retrouver la semaine prochaine sur le même thème. À la semaine prochaine.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires